La Mouette Crieuse sur Radio U 101.1, une émission proposée par le groupe local Greenpeace Brest.
Aujourd'hui, la Mouette Crieuse rappelle un fait réel et à méditer. Les noms propres et les années ont été volontairement tronqués parce que ça aurait pu arriver ailleurs. Pour le reste, c'est authentiquement sale. Tout a commencé un 1er mars. Un débordement estimé à 200 mètres cubes d'eau usée se produit en amont du poste de refoulement. La plage est interdite à la baignade jusqu'à nouvel ordre. Le 10 avril, quelqu'un remarque que le pavillon violet flotte sur la plage. Le pavillon violet annonce une eau polluée. Cette eau polluée représente un danger pour la santé des baigneurs. La plage est fermée jusqu'à nouvel ordre. Le 12 avril, un baigneur se baigne, malgré la signalisation pour interdire la baignade. Il dit « Je pensais que le pavillon violet, c'était le pavillon bleu pour une bonne qualité des eaux. » Eh non, la pollution, ce n'est pas auto-nettoyant.
La qualité des eaux de baignade est une préoccupation essentielle en matière de santé publique. En partenariat avec les collectivités, l'ARS, Agence régionale de santé Bretagne, assure chaque année la surveillance sanitaire de l'ensemble des zones de baignade qui sont recensées sur le littoral et sur les plans d'eau intérieurs de la région. Le contrôle de la qualité des eaux de baignade est une obligation communautaire depuis 1976. L'ARS annonce qu'au 31 décembre 2024, 98,8% des profils de baignade ont été réalisés en Bretagne. En plus des opérations de contrôle, retenons bien cette notion de profil de baignade. En effet, le profil de baignade est apparenté à un diagnostic réalisé sur chaque site contrôlé. Il a pour but d'identifier l'origine des contaminations, les situations à risque et leurs modalités de gestion, et les actions et travaux à engager pour améliorer la qualité de l'eau de baignade. Les collectivités ont la responsabilité d'afficher sur site les résultats de la qualité des eaux. En Bretagne, le contrôle de la qualité des eaux de baignade s'effectue entre fin mai et mi-septembre. L'eau de baignade est classée en qualité excellente, bonne, suffisante ou insuffisante. Les eaux de baignade doivent atteindre au moins la qualité suffisante pour satisfaire à l'objectif de qualité européen. Ça, ce sont les renseignements fournis par l'ARS, Agence régionale de santé. Mais, sur le site La Belle Plage, l'association ERB, Eaux et Rivières de Bretagne, revendique une prise en compte différente de ces données. ERB rappelle: la qualité des eaux de baignade est suivie uniquement durant la saison estivale par les agences régionales de santé. Entre 4 et 14 prélèvements sont réalisés chaque année entre juin et septembre sur chaque plage. Les plages sont classées suivant une grille européenne: excellent, bon, suffisant ou insuffisant. Et ERB conclut: ce classement, destiné à la comparaison à l'échelle européenne, décrit la qualité moyenne des eaux de baignade, mais il ne reflète pas la réalité des risques sanitaires, information pourtant essentielle pour les baigneurs. Alors nous vous demandons un peu de concentration pour la suite et surtout pour le rappel de la table de multiplication par Jacques Baudouin.
Gélibert, tiens, Gélibert, table de multiplication par trois. Allez, tant pis, c'est l'orgie, c'est la fiesta pour monsieur l'inspecteur.
Oui, monsieur, c'est comme si vous l'aviez. C'est parti, mon kiki. 3 × 1, 4. C'est tout récent, ça. Ah ben, moi, je ne le savais pas non plus. Alors, vous voyez que ça vient de sortir. C'est une surprise pour tout le monde. 3 × 2. Passez-moi le boulier. 7. Ah oui, je sais, tout augmente. 3 × 3, nous passons rapidement. 3 × 4, à quoi bon insister? Et nous arrivons déjà à 3 × 5. Tout de même. Enfin, un bon bout de déblayé, ça. 3 × 5. Oui, alors, voyez-vous, autant j'ai été brillant jusqu'à présent, autant à partir de 3 x 5, il y a comme un malaise. 3 x 5, ça n'a l'air de rien, vous partez confiant. Et puis, mon vieux, c'est que... ça risque d'aller vous chercher dans les... Va savoir. 3 x 5, il faudrait voir les Russes. À mon avis, ça doit graviter autour de... guerre plus, mais pas moins, vous voyez. 3 x 5, combien je pourrais vous le faire? Ah, je veux pas vous assaisonner non plus. Un vieux client comme vous, si je peux vous faire une pâquerette, je ne manquerai pas. 3 x 5, 14,50. Ah, j'aurais du mal à vous le faire plus juste. Hein. C'est mon prix Inno. Une fois que j'ai enlevé la taxe...
Ça suffit. Asseyez-vous, arrêtez le cardage. D'ailleurs, je voudrais bien interroger un peu les bancs du fond.
Et effectivement, l'inspecteur. Venez d'apercevoir aux bancs ultimes de la classe, et juste à côté du chauffage central, c'est là qu'ils s'épanouissent, un de ces cancres qui font la gloire des récréations françaises.
Je dis, comment vous appelez-vous?
Oui, je m'appelle Hermès. C'est à quel sujet?
Monsieur Ernest, vous m'avez l'air particulièrement doué. Voulez-vous nous dire, je vous prie, la table de multiplication par 7?
Oh, ben merde alors.
Vous n'avez pas demandé la table des matières, vous avez demandé la table de multiplication.
Oh, yeah, yeah. Vous y tenez, vous? C'est vrai qu'il faut être vicieux pour aimer ça, hein? Moi, je suis très au courant, je suis ça d'assez près, forcément. Je vous donne un conseil d'ami, laissez tomber, malheureux. Vous serez déçus. C'est parce que...
La question n'est pas la table de multiplication par 7.
Aïe, aïe, aïe. J'en ai marre de cette école, moi, j'en ai marre. Toujours debout au tableau, ça me fout les varices. J'ai des jambes dans un état que si vous les verriez, vous diriez, qui c'est ces guiboles minables que...
La question n'est pas là, ta...
Oh, mais ça va. Bouh, là là, mais c'est qui vous mordrait? Soupe au lait, hein? Vous serez content quand vous aurez un cactus dans le myocarde. Alors, 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 ne poussons pas, il y en aura pour tout le monde. Les femmes et les enfants d'abord. Toujours dans les naufrages. Et celui-là, c'en est, hein. Si j'aurais pas venu, moi. Si j'aurais su que ce soit ici, j'aurais pas venu parce que vous êtes têtu. Comprenez-vous? Vous êtes peut-être pas le mauvais gars, mais qu'est-ce que vous trimballez comme carafon, ouais. Ça vous passera avant que ça me reprenne, c'est moi qui ai voulu. Bon, eh ben, on va y aller. On va pas tarder à y aller. En tout cas, je vous ai prévenu, vous ne viendrez pas charler après, vous savez ce qui vous attend, c'est à la loyale, les yeux dans les yeux, n'est-ce pas? Rendez-vous au 15-20. Voulez-vous dégager la piste? Je commence immédiatement le compte à rebours. Alors, c'est vous dire que nous n'allons pas tarder à être mis sur orbite, n'est-ce pas? 5, 4, 3, 2, 1, 0, lâchez tout, ils sont partis! Cette fois en 7. Tiens, ça m'a échappé.
Alors, nous sommes à Melon, dans le jardin de Christophe Le Visage. Il y a un petit ruisseau qui traverse le jardin, il s'appelle Le Melon. Et de l'autre côté de la route, c'est la mer. La mer est la problématique de la qualité des eaux de baignade. Christophe Le Visage est membre de la commission mer et littoral au sein d'Eau et Rivières de Bretagne. Cette commission permet aux experts citoyens de mutualiser leurs expériences et d'élaborer des stratégies d'action visant à améliorer les politiques publiques de l'eau par une représentation au parc marin, à la conférence régionale mer et littoral, au conseil maritime de façade, etc. Questions réglementaires et veille scientifique couvrent les thèmes des marées vertes, dragage des ports, bloom planctonique, plaisance, etc. Alors, en mai 2024, l'association Eaux et Rivières de Bretagne a publié une contre-enquête sur la qualité des eaux de baignade dans du littoral français. Le site labelleplage.fr est créé, très très fréquenté. Il présente un classement des plages bien plus sévère que celui établi par les pouvoirs publics. Alors, Christophe Levisage, bonjour. Plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Sur la forme, comment comprendre ce succès revendiqué de labelleplage.fr? Et puis sur le fond, pouvez-vous nous éclairer sur ce qui diffère entre votre classement et celui de l'ARS? Christophe Levisage.
Oui, bonjour. Alors, c'est intéressant de revenir un peu dans l'histoire, puisque le classement Label Plage, c'est pas le début de notre action, c'est quelque part un aboutissement d'une aventure qui a commencé il y a quelques années et qui, au début, ne se présentait pas du tout comme une enquête ou comme une contribution à une politique publique, mais plutôt le constat, c'est un problème qui remontait tout seul sur le dessus de la pile, si j'ose dire. Nous avons des adhérents surfeurs qui, se baignant sur les plages d'ici, vous voyez, exposés au grand large, s'étonnaient de souffrir d'otites et de complications de ce genre, un peu plus souvent qu'à l'ordinaire. Effectivement, toutes les gens qui se baignent dans l'eau froide sont exposés à ce genre de maladies. Mais là, c'était vraiment très souvent. Donc, ils ont été amenés à se poser la question de savoir si la qualité de l'eau ne pouvait pas être en cause. Et c'est là que tout a commencé, si j'ose dire. Donc, puisqu'on a commencé à poser des questions aux différentes autorités. D'abord la commune, responsable de la gestion des plages, puis ensuite les autorités comme l'Agence régionale de santé, chargée de leur surveillance. Et on a en fait commencé à soulever un tapis sous lequel nous avons trouvé des choses que nous ne nous attendions pas à trouver. Nos questions, au début, tout le monde nous répondait poliment, et puis les réponses étaient de moins en moins polies. Donc finalement, il a fallu qu'on lance un vrai travail d'enquête policière pour d'abord monter en compétence, puisqu'on partait de zéro, si j'ose dire, hein, de baigneur à devenir spécialiste, entre guillemets, de la qualité des eaux de baignade. Il y a un chemin assez long à parcourir. Donc, il a fallu que nous découvrions comment tout ça a été surveillé d'abord. Hein, il y a une surveillance de la qualité des eaux de baignade depuis plus de 50 ans. Une directive européenne, bien avant la directive cadre sur l'eau, que tout le monde connaît désormais. Depuis 1976, la qualité des eaux de baignade est surveillée dans toute l'Union européenne. Donc c'est que le sujet soulève quelques problèmes, et effectivement des problèmes sanitaires. Donc en France, cette surveillance est assurée par l'Agence régionale de santé, qui concrètement, sur toutes les plages, les eaux de baignade, hein, c'est le nom administratif d'une plage, c'est une eau de baignade, donc sur toutes les eaux de baignade, assure pendant la saison de baignade. Alors, en été, enfin en Bretagne plutôt, et en France, on considère que la saison de baignade fait 3 mois, royalement, de juin à septembre, alors qu'on voit bien qu'on se baigne avant et qu'on se baigne après, surtout en Bretagne, il n'y a pas d'hiver, donc il n'y a pas d'été. Donc, on se baigne pratiquement toute l'année, mais la surveillance ne se fait que pendant l'année, pendant cette saison de baignade, pardon, et des prélèvements sont réalisés périodiquement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, à peu près, sur chacune de ces plages. Ça se fait discrètement, des gens passent avec une petite voiture, font un prélèvement d'eau, qui est analysé ensuite pour y rechercher 2 bactéries. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est les pollutions bactériennes, microbiologiques. Alors, il y a pas mal de pollution dans les eaux de baignade, hein, comme dans toutes les autres eaux. Il y a des pollutions chimiques, des médicaments, des pesticides, etc. Mais les pollutions bactériologiques sont particulièrement intéressantes parce que ça ne pardonne pas assez tout de suite, si j'ose dire. Autant la pollution chimique, vous pourriez en souffrir si vous baignez pendant plusieurs années. Pollution bactériologique, la gastro-entérite, c'est toi-même. Donc, voilà. Donc, concrètement, c'est un vrai sujet et c'est pas simplement... ça peut être grave, en plus. Donc les maladies auxquelles on s'expose, soit par le contact de la peau, soit par l'ingestion, quand on boit la tasse, peuvent être sérieuses pour les personnes sensibles. Donc notre enquête, finalement, nous a amené à d'abord la connaissance de ce système de surveillance, à nous poser des questions quand même un peu bizarres, en tout cas que personne ne s'était posé. Comment se fait-il, par exemple, qu'une plage classée excellente ou bonne, parce que les mesures dont je parlais par l'ARS aboutissent à un classement annuel, comment ces plages classées excellentes étaient-elles fermées 5 ou 6 fois dans l'été pour des raisons sanitaires? Donc pendant 2 ou 3 jours, on avait un arrêté du maire qui interdisait la baignade pour des raisons sanitaires. Et il n'empêche que la qualité était considérée comme excellente ou bonne. Ça nous interrogeait, nous. Imaginez un restaurant qui soit fermé 5 ou 6 fois dans l'été pour des raisons sanitaires, on s'étonnerait que ce restaurant reste ouvert. Bah, pour les plages, ça ne gênait personne. Et d'autre part, non seulement il y avait une interdiction, alors qu'il se matérialisait par un arrêté affiché sur la plage. Bon, évidemment, quand vous arrivez sur la plage avec votre serviette sous le bras, la première chose que vous ne faites n'est pas de lire un arrêté soigneusement punaisé sur un panneau à l'entrée de la plage, c'est de vous jeter dans l'eau. Et tout le monde se baignait pendant ces interdictions. Ça nous interrogeait. Est-ce qu'il y avait vraiment raison d'interdire? Est-ce qu'il y avait des risques? Et comment se faisait-il qu'on ne fasse rien? Alors voilà, c'est comme ça que notre enquête a commencé. Et finalement, la première partie de cette enquête s'est terminée au tribunal administratif parce que nous avions mis en évidence le fait que une partie de l'explication était liée au fait que pour calculer la qualité des eaux de baignade et le classement, en fait, l'ARS éliminait un certain nombre des mesures, en particulier les mesures lorsque l'eau était polluée. Évidemment, ça biaise. Imaginez que vous calculiez la moyenne des élèves en enlevant les plus mauvaises notes. Ça fait monter la moyenne. Donc ça, c'était le premier point. On a été au tribunal administratif qui a dû admettre, en tout cas le tribunal administratif a admis, que le classement n'était pas sincère. Et c'est là que la deuxième étape de notre enquête a commencé. Parce que certes, le classement n'était pas sincère, mais ce n'est pas l'ARS qui pollue les plages. Et donc, il fallait qu'on aille un peu au-delà et qu'on enquête.
Alors, que reste-t-il à faire sur les plages du Finistère? Eh bien, peut-être faire des ronds dans l'eau avec Keren Han. On l'écoute.
Ça fait des siècles que j'attends sous le paravent, le vent du désert m'allongé sous le paravent, sous le sable blanc, tout près de la mer à côté. Un palais à palace pour voir le temps qui passe. Je ne suis pas sur la photo, je suis au bord de l'eau. Être en vie n'est pas assez ni trop. Je sais c'est rien mais je préfère la seule chose que je sais faire. Des ronds dans l'eau, les herbes folles et la rivière, les plages du Finistère et la mer. Qui tombe sur les passants et sur le paravent, tout près de la Seine à l'abri. Un palais à palace, quand on oublie, hélas, je n'ai pas vu le temps passer, le soleil se coucher, être en vie ni jamais trop ni assez. Je sais c'est rien mais je préfère la seule chose que je sais faire. Les ronds dans l'eau, les herbes folles et la rivière, les plages du Finistère et la mer. La mer.
Oui, alors c'est ça, on a bien compris qu'une baignade dans une eau de mauvaise qualité microbiologique entraîne donc un risque infectieux, c'est ce que vous nous disiez, donc notamment des gastro-entérites, des otites, des dermatites. Donc deux indicateurs bactériens, d'abord Escherichia coli et puis les entérocoques intestinaux donc, qui sont contrôlés. Alors leur présence dans les eaux peuvent être associées donc à celles de germes pathogènes plus dangereux. On parle aussi de la listeria, des coronavirus, des norovirus, des résidus médicamenteux, comme vous nous l'avez dit. Et alors, on sait qu'il y a quand même de nombreuses terres d'épandage sur le bassin versant.
On peut supposer qu'après de fortes précipitations, le melon charrie une pollution microbiologique qui n'est pas perçue par les enfants et les parents en belle saison. C'est ce que vous nous disiez, on arrive sur la plage, on va se jeter dans l'eau, on ne va pas forcément lire les comptes rendus qui sont donc affichés par les municipalités. Et si cette pollution elle est signalée en été, par contre, il n'y a aucun prélèvement donc, de l'ARS en dehors de l'été. Est-ce que Eau et Rivières de Bretagne fait des mesures hors saison ?
Alors oui, effectivement, comme vous le disiez, les pollutions sont, enfin les bactéries qu'on mesure ne sont pas forcément des bactéries pathogènes, hein, qu'on soit clair, effectivement, ce sont des bactéries indicatrices. Leur présence signifie qu'il y a très probablement une pollution, leur absence qu'il n'y a très probablement pas de pollution. Donc ce sont des bons indicateurs, mais effectivement, ce n'est pas forcément des indicateurs de la gravité de ce qu'on peut attraper. Ça dépend évidemment des bestioles qui s'y trouvent, virus par exemple, ou bien bactéries. Ça dépend aussi de la sensibilité des baigneurs, hein. Quelqu'un de jeune et en bonne santé pourra se baigner sans problème dans de l'eau polluée, alors qu'une personne sensible, des enfants bas âge, des personnes immunodéprimées. Donc il y a un risque, il y a un vrai risque, et c'est du fait de ce risque que la surveillance est faite. Alors on sait que ces bactéries sont d'origine fécale, mais ça peut être issu d'animaux ou d'humains. Et c'est les deux principales causes revendiquées. Parfois, c'est la faune sauvage, mais très rarement. La faune sauvage, surtout par les temps qui courent, en particulier les oiseaux de mer, à la suite de la grippe aviaire, etc., ne sont pas forcément très dominants. Et en fait, les principales sources de pollution dans les eaux de baignade viennent de la terre, et viennent des humains ou des animaux. Alors, évidemment, en zone urbaine, lorsqu'il y a des problèmes d'assainissement, la cause est toute trouvée, si j'ose dire. C'est souvent des problèmes d'assainissement collectif, de stations d'épuration qui débordent ou bien de pompes de relevage, je ne rentre pas dans le détail, ou de réseaux qui fuient. Mais dans les zones comme ici, où il y a très peu finalement de population, c'est très peu dense, il n'y a pas de station d'épuration où il y a pas où elle fonctionne bien, eh bien, on peut se poser la question de l'origine de tout ça. Et en particulier sur des zones comme ici, où en amont de la plage, sur le bassin versant, il y a énormément d'animaux. On a des dizaines de milliers de cochons, des milliers de bovins qui survivent sur ces bassins versants, et surtout dans les effluents sont épandus sur les champs. Donc une des questions qu'on se posait était de savoir si, comme on nous le disait, ces pollutions, comme elles apparaissent que l'été, étaient d'origine humaine et c'était lié au tourisme, ou bien si ça venait d'ailleurs. Alors, premier point déjà, la surveillance ne se faisant que l'été, on ne pouvait pas soupçonner autre chose. Il était naturel peut-être de soupçonner les touristes, mais on ne pouvait pas vérifier que cette hypothèse était exacte. Et puis d'autre part, c'était intéressant de regarder s'il y avait un lien entre les épandages que nous soupçonnions, c'est ce que je disais, et puis les pollutions. Donc on a fait quelques mesures sur une dizaine de sites en Bretagne, en alternant des sites pollués, des sites non pollués, pas de biais, et des sites urbains et des sites non urbains, pour voir et vérifier notre hypothèse. Alors ça coûte un peu cher, hein, parce que chacune de ces analyses, c'est 75 euros. Donc il faut aller faire un prélèvement en suivant les règles et les protocoles, aller l'amener au laboratoire, donc on ne pouvait pas en faire des milliards, mais on en a fait quand même quelques dizaines, et le résultat est tout à fait significatif. Les pollutions existent en dehors des saisons de baignade, c'est pas un scoop, et d'un autre côté, dans les zones où agricoles, eh bien, les pollutions sont plus importantes pendant les saisons d'épandage. Donc ça rebat un peu les cartes par rapport au message habituel.
Alors, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars dans ton cœur tout au fond. Alors là, c'est Georges Moustaki qui l'écrit et on va écouter donc une bossa nova composée par Antonio Carlos Jobim. Anne Carrère interprète les eaux de Mars.
Une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert. Un arbre millénaire, un nœud dans le poids, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, promesse de vie, c'est le souffle du vent. Des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant, c'est la pique qui chacasse, c'est la verse qui verse, des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de Mars, C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. Un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose d'une source d'eau claire. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. Une écharpe, un clou, c'est la fièvre qui monte. Un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif par chance. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, c'est le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Là, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. C'est Joseph et c'est Jacques, un serpent qui attaque, une entaille au talon. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Un point, une bosse, une tache, un coup, un geste, une aiguille, une guêpe, un coup. L'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de mer dans ton cœur tout au fond. Daya baba, daya baba, daya baba, da daya baba, para da 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 da, daya baba, daya baba, da 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 da.
Alors, en introduction, la notion de profil de baignade nous a interpellés. Donc, nous avons compris que sur chaque site contrôlé, s'attaquer à l'origine des contaminations et engager des travaux pour améliorer la qualité de l'eau de baignade devenaient des priorités. Ici et sur d'autres plages, on trouve un panneau « Méfiez-vous des écoulements sur les plages. Ces rejets peuvent être contaminés. Bien qu'ils apparaissent aux yeux des enfants comme un espace de jeu privilégié, apprenez aux petits à les éviter. » Alors, est-ce là le début du profil annoncé ? Profil bas ? Ben non, si l'origine des pollutions est à peine susurrée. Christophe Levisage.
Oui, question intéressante. Effectivement, la réglementation européenne... La réglementation européenne impose la surveillance que j'évoquais tout à l'heure, mais elle impose aussi d'aller plus loin et que pour toutes les, chaque eau de baignade, on fasse une étude technique, dite profil de baignade précisément, qui vise à étudier les causes possibles de pollution sur chaque plage. C'est la meilleure solution effectivement de gérer le sujet, c'est d'essayer d'identifier les causes possibles et puis de les hiérarchiser si possible. Alors ce profil de baignade est effectivement réalisé sur toutes les plages françaises, pas toujours en suivant le calendrier imposé, mais globalement, surtout après nos efforts, de plus en plus régulièrement. Et puis il met en évidence effectivement plusieurs causes possibles. Alors sur chaque plage, c'est multifactoriel, c'est le mot à la mode. Mais ce n'est pas parce que c'est multifactoriel qu'il n'y a pas des facteurs qui sont plus importants que d'autres. Et en fonction de l'endroit où on se trouve, comme je le disais, dans les zones urbaines, dans le multifactoriel, c'est essentiellement le facteur humain qui est sans doute le pollueur. Parfois les chiens, très rarement. Hein. On accuse les animaux régulièrement, les chiens, les chevaux, les oiseaux, pour les regarder ailleurs. Et puis dans les zones agricoles comme celle-ci, eh bien, le facteur principal, c'est de très loin les animaux. Alors c'est intéressant de revoir, c'est un document technique et scientifique, le profil de baignade, et donc il doit prendre en compte les études scientifiques qui ont été menées sur le sujet, notamment celle d'Ifremer, parce que la problématique de la pollution des eaux de baignade, c'est aussi la problématique de la pollution des zones conchylicoles, là où grandissent les coquillages. Et évidemment, lorsque les coquillages grandissent et concentrent les bactéries, ça se retrouve dans votre assiette. Donc là, il y a de raisons sanitaires de s'intéresser à la question et peut-être des raisons économiques un petit peu plus visibles que la baignade. Donc l'IFREMER s'est penché depuis plusieurs dizaines d'années sur le sujet et a démontré, alors les chiffres font peur, que du point de vue de la bactériologie, un cochon, c'est l'équivalent de 30 humains. Donc chaque jour, un cochon rejette dans la nature, dans ses matières fécales, 30 fois plus qu'un humain. Et un bovin, c'est 5 fois plus qu'un humain. Ah, ça redonne une dimension particulière. Ici, dans l'arrière-pays, vous avez des élevages dans lesquels il y a 10 000 cochons. 10 000 cochons, 300 000 humains. Et ces cochons ne traitent pas réellement leurs effluents, puisque la solution, à la fois parce que c'est un engrais, parce que ça permet de s'en débarrasser, c'est de les épandre sur les champs. Donc quand je disais multifactoriel, il y a des zones où le facteur le plus évident, c'est celui qu'on ne veut pas voir. We'll be right back.
Alors, on vient d'écouter les Who. Who are you? Alors, who are you, Christophe le Visage? On vous voit lanceur d'alerte. On vous sait défenseur civil au tribunal administratif. Alors, ne doit-on pas aussi pratiquer la désobéissance civile pour élever la réponse des autorités? Après tout, Nelson Mandela disait « C'est l'adversaire qui fixe la hauteur de l'action ». Alors, si on veut avoir une influence sur les institutions, quelle action serait acceptable pour négocier?
C'est une excellente question, surtout par les temps qui courent. Alors, nous, on a choisi l'option d'abord légaliste. Et puis l'option de soulever les tapis. Lanceur d'alerte, c'est peut-être un grand mot, mais en l'occurrence, là, on soulève le tapis et notre classement visait à ça. Il visait deux objectifs. Le premier, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, c'est d'alerter les baigneurs eux-mêmes qu'ils prenaient un risque. Parce que derrière tout ça, derrière ce silence, ce grand silence ou ce flou sur la qualité des eaux de baignade, il y a des risques réels que les gens prennent sans s'en rendre compte. Donc pour nous, le premier objectif dans notre classement, c'était de rendre ce risque visible. Donc on pourra en revenir un peu sur le sujet pour voir comment on l'a fait. Le deuxième, c'est effectivement rendre visible le problème. Et ça, je ne sais pas si vous avez vu la manière dont c'est actuellement communiqué sur le site du ministère de la Santé. Vous avez une carte des baignades, mais vous ne pouvez pas avoir de vision d'ensemble. Il faut zoomer. On peut voir individuellement si chaque plage est propre, mais on ne peut pas dézoomer et voir en particulier où se répartissent, par exemple, les pollutions. Nous, on l'a fait et c'est très intéressant parce que ça donne pas du tout la vision qu'on pourrait avoir d'habitude. Si vous suivez le raisonnement habituel de nos décideurs, ce sont les touristes et puis les humains qui polluent. Donc globalement, c'est plus pollué dans les zones touristiques et dans les zones où il y a beaucoup d'humains. C'est pas du tout ce que nous disent les cartes. Regardez par exemple le Languedoc-Roussillon, l'Occitanie, qui est une zone où le tourisme est majeur. Toutes nos plages sont en bleu, d'ailleurs celles de l'ARS aussi. Il y a très peu de pollution là-bas parce que l'assainissement est aux normes, etc. En revanche, en Bretagne Sud, c'est pas mal non plus. En revanche, en Bretagne Nord, c'est quand même pas là que se concentrent les touristes. Et en Bretagne Nord, la plupart des plages sont rouges. Et donc, tout ceci incite à voir derrière tout ça autre chose que des problèmes ponctuels, mais des problèmes systémiques. Donc voilà, ce qu'on essaie de faire apparaître, nous, c'est, lorsqu'il y a des problèmes ponctuels, on essaie de les régler au coup par coup avec chacun des acteurs. Et puis lorsqu'il y a un problème systémique, de le faire monter aux décideurs politiques pour leur dire arrêtez de vous voiler la face, regardez les choses en face, identifiez les causes et désignez les responsables.
Pour conclure et éclairer et renseigner mais justement tous ces gens qui viennent en Bretagne pour se baigner, on va les inviter à aller sur le site labelleplage.fr. Est-ce que vous pouvez nous raconter justement ou nous expliquer comment lire toutes les informations qui figurent sur ce site?
Oui, alors on a essayé d'en faire un site très simple à utiliser sans avoir besoin de mode d'emploi. Et première exigence. La deuxième, c'est que les gens qui doutent puissent faire le calcul eux-mêmes. Ça, c'est intéressant. Voilà, donc concrètement, donc on essaye de faire apparaître le risque pris par chacun des baigneurs. Alors encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons à la place du baigneur s'il va se baigner, mais au moins il saura. Donc on a regardé, si vous rappelez, on fait des prélèvements pendant la saison d'été. Et puis on peut, pour chacun de ces prélèvements, le classer dans une des catégories bon, moyen ou mauvais, en fonction du risque sanitaire associé, du risque pour la santé. Alors ce n'est pas nous qui inventons cette échelle, hein, c'est le ministère de la Santé qui l'a mise en place, qui l'a commandé à l'AFSET, désormais l'ANSES. Et donc chacun des prélèvements peut être classé dans une de ces catégories. Vous le voyez d'ailleurs en allant sur la plage, vous avez des prélèvements qui sont bleus, des prélèvements qui sont verts et des prélèvements qui sont rouges. Alors déjà c'est une petite arnaque parce que bleu ça signifie pas de risque, mais vert ça signifie risque notable. Donc ça devrait être vert, orange et rouge. Mais bon, il faut rassurer le public. Donc nous utilisons en fait ces classements d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on regarde sur 4 ans, sur le nombre de prélèvements, quel est le pourcentage qui est classé bon. Évidemment, pour une plage idéale, ce serait 100%. Et là, pour nous, c'est une plage recommandée. Et lorsque ce pourcentage baisse en fonction de la plage, et il y a des plages qui sont à moins de 70% et d'autres à moins de 60%. Alors là, pour nous, c'est ces plages à éviter. Pour le baigneur, c'est tout simple, il regarde la carte, recommandé, peu risqué, déconseillé à éviter. Et c'est à lui ensuite de juger si entre deux plages voisines, une à éviter et une recommandée, laquelle il doit choisir.
Eh bien, merci Christophe Levisage. Eh bien, comme nous, vous aimez aussi les gens qui doutent. Hein. C'est comme ça que vous nous avez donné toutes ces indications. Et c'est le titre que je vous propose désormais d'écouter. J'aime les gens qui doutent de Anne Sylvestre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
On a quitté Melon, c'est beau Melon, cette route côtière et ces criques ciselées. On s'était dit que par chez nous, on interrogerait un baigneur qui se baigne toute l'année. Il m'a avoué que quand l'eau atteint 11 degrés, il faisait juste trempette. On lui aurait demandé s'il se baignait tous les 12 avril. On s'était dit qu'on demanderait à une maman qui, toute petite, fréquentait la plage, comment cette plage a évolué. Cette plage, ses enfants, déjà grands, l'ont fréquenté tout petit. On s'était dit qu'un élu se prêterait bien au jeu des questions-réponses sur le coût des travaux pour relever les eaux usées, canaliser les eaux pluviales et sur les conséquences d'une pollution accidentelle ou non. On s'était dit, mais on n'a pas fait. Vous l'avez compris, ne pas faire fait partie de notre sujet. On n'a pas joué la proximité parce que ça fait un moment qu'on veut vous raconter une autre histoire. On va se permettre un parallèle avec l'affaire Eryl Brockovich contre la compagnie Pacific Gas and Electric aux États-Unis. On écoute la petite musique de Thomas Newman. 333 million.
Dans la réalité, en 1993, la compagnie Pacific Gas and Electric s'est engagée à payer la somme record de 333 millions de dollars pour un déversement illégal de 26 tonnes d'une toxine cancérigène dans la petite ville de Hinckley. À l'époque, Erin Brockovich est assistante juridique pour l'avocat californien Edward L. Masri. Et puis en 2000, il y a le film Erin Brockovich, seule contre tous, avec Julia Roberts. Dans cette fiction, Julia Roberts dit qu'elle a obtenu des révélations qui ont permis de condamner la PGE, Compagnie Pacific Gas and Electric, grâce à ses nichons.
Why are there medical records and blood samples in real estate files?
Would you mind if I investigate this a little further?
What makes you think you can just walk in there and find what we need?
They're called boobs, Ed.
Oui, vous avez bien entendu, grâce à ces nichons. Bon, c'est sans doute ça, le profil. Dans la réalité, c'est Mrs. Walker qui a balancé une boîte de documents sur le chrome hexavalon sur le bureau d'une assistante juridique nommée Erin Brockovich. Mrs. Walker dit de la fiction, le bon côté, c'est que ça montre que la communauté s'est fait avoir. Maintenant, les gens connaissent les grandes lignes de notre histoire. Aujourd'hui, le poison est toujours là. Hinckley va bientôt perdre son unique école primaire et semble sur le point de devenir une ville fantôme. La toxine invisible continue de manger la ville. Mrs. Walker dit « Aujourd'hui, je n'ai plus l'énergie pour me battre, mais je ne partirai pas d'ici. » Alors sa fille Rihanna souffre d'hypertension, d'endométriose, de lupus, donc des problèmes que ses médecins ont liés à son exposition à la toxine. Elle saigne du nez régulièrement et abondamment, ce qu'on voit d'ailleurs bien dans le film. Son voisin, Mr. Banks, dit « L'expérience est si extrême qu'elle a changé mes convictions politiques. » À Hinckley, partout, on croise des maisons barricadées. PGE offre une somme d'argent aux gens qui veulent abandonner leur maison. Ceux qui acceptent s'engagent à ne pas parler publiquement et à ne pas dévoiler les détails de l'entente. En 2 ans, 30 familles sont parties, leurs maisons ont été rasées par PGE et il n'en reste rien. Comme Mrs. Walker, Mr. Bank fait partie d'un nouveau recours collectif contre PGE. Mr. Banks dit « D'après moi, le vœu le plus cher de PGE est que les gens quittent une fois pour toutes. Alors il ne restera plus personne pour se plaindre. » À retour en plage bretonne, 2 questions se profilent. Est-ce qu'on peut, en France, exposer la population en toute impunité? Jouer et tricher avec la loi devient une autre loi? N'est-ce pas ce que font les pollueurs? On va écouter Un nouveau monde, Feu Chatterton.
Un vent, un grand vent nouveau, souffle sur le pays, très chaudement, dans un bain. Un bain de foule dévot, à moitié épaillis.
On se mouillait mollement. La glace fondait dans les spritz. C'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central. Amour. Qui nous foutait la frousse, plein les poils en même temps. La clarté nous pendait au nez dans sa vive lumière bleue. Nous étions pris, fait cerner. L'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
Ouvert une page de réflexion sur la clarté, ou plutôt le manque de clarté des infos officielles. Quand l'enjeu numéro un est la santé des populations, le silence, le flou, le déni ne sont plus possibles. L'aménagement du territoire prend ici toute sa dimension politique dans les ZES, zones à enjeux sanitaires, concernant la baignade, mais également les captages d'eau, les sites de pêche, de conchyliculture et d'activités nautiques. Les ZES sont définis par les services de l'État. Pour choisir nos activités de plage et baignade, la démarche de s'informer entre dans un processus de vigilance pour agir avec pertinence et selon leur libre arbitre. Les citoyens que nous sommes doivent rester critiques. À noter que le site labelplage.fr comptabilise aujourd'hui plus de 2 millions de consultations et labelplage.fr gagne donc en notoriété du fait du service rendu au public. Alors si le classement officiel nie des réalités environnementales, alors chacun d'entre nous pourrait bien lui adresser un pavillon violet. Vous savez, ce pavillon qui signale une pollution, mais qui apparaît rarement quand les plages de l'Iroise sont interdites de baignade. Allez, on ferme. Aujourd'hui, Agnès et Claude vous ont jeté dans le grand bain. La prochaine émission portera sur un dossier historique, les algues vertes. Nous apporterons les informations récentes sur la récurrence et la propagation de cette pollution systémique et, comme aujourd'hui, nous présenterons l'approche des experts citoyens. Nous referons un petit détour dans le temps et sur le territoire américain avec le mystérieux Mr. Fox. La Mouette Crieuse vous donne rendez-vous au début de l'été, le premier dimanche du mois de juillet, le 5 juillet à 17h. Et vous pouvez évidemment réécouter toutes les émissions de La Mouette Crieuse sur Radio U 101.1 en podcast. À bientôt.